Je souhaite d'abord remercier mes collègues de m'avoir fait l'honneur de présider cette matinée qui sera consacrée, mais c'est un pur hasard, au Maroc. Voilà. Mais en réalité, ce sera plutôt autour de la problématique histoire et littérature, cette articulation extrêmement complexe. Nous essayerons de voir comment cette injonction du réel nous impose une forme de littérature et ce que cette littérature, justement, tente de dire, ne serait-ce pour le Maroc que de permettre au sujet de se ressaisir après une expérience traumatisante. Nous allons commencer cette matinée par réfléchir sur des événements qui ont peut-être reconfiguré le rapport au pouvoir au Maroc. Et ce sera Madame Jeanne Coué qui nous en parlera ce matin. Hier, nous avons souligné à plusieurs reprises une volonté de créer une transversalité entre les sciences humaines et la littérature. Et la preuve, c'est que ma collègue Jeanne Coué, qui est une littéraire, va parler justement d'événements historiques auxquels elle s'intéresse depuis un certain temps et elle prépare un travail conséquent sur la littérature carcérale marocaine, mais elle va nous parler des coups d'État qui ont eu lieu sous le règne du roi du Maroc Hassan II, donc le père du roi actuel. Je souhaite d'abord vous présenter Madame Jeanne Coué, qui est la présidente de l'association CICLIM, coordination des chercheurs sur les littératures du Maghreb. Jeanne Coué est aussi une spécialiste de Dri Chraïbi, et je crois savoir que la veuve de feu Chraïbi sera parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc je la salue. Je voudrais dire aussi que Jeanne Coué est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la littérature maghrébine, autre que marocaine, bien entendu. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole.
Inattendue fut la longévité du roi Hassan II, monté sur le trône en 1961 et décédé de mort naturelle en 1999, au terme d'un règne riche en rebondissements politiques. Deux coups d'État faillirent bien lui coûter la vie en juillet 1971 et août 1972, mais il en réchappa miraculeusement et réussit à reprendre les rênes du pouvoir et à rebâtir une légitimité populaire certaine par le recours à la marche verte du 6 novembre 1975, deux ans seulement après l'échec du deuxième coup d'État et l'élimination du général Oufki. Ce dernier avait été de toutes ses aventures, jusqu'à l'attaque de l'avion royal qu'il avait organisé. Le premier coup d'État, intervenu lors de la réception fastueuse que le roi offrait pour son 42e anniversaire, dans sa résidence de Sriraat, se solda par des centaines de morts. Le roi s'était réfugié dans les toilettes, avec quelques fidèles dont Oufkir, et attendit le retour au calme pour s'extraire de sa cachette, ce qui put sauver la vie. Il dut en août 1972 son salut à l'extrême professionnalisme du pilote de son avion. Il gagna pour l'écart simple la réputation d'être protégé par une baraka sans faille. Il y eut des exécutions immédiates et des procès. Dans les deux cas, les comploteurs étaient des militaires. La première fois de l'infanterie, la deuxième de l'aviation. Il y eut des tortures inouïes, des brutalités inhumaines et finalement des sentences d'emprisonnement allant de quelques années à la perpétuité dans la prison militaire de Kénitra pour ceux qui n'avaient pas déjà été tués. Ce n'étaient pas les seuls procès de cette période agitée de l'histoire du Maroc, mais je passe sur ce contexte. Car nous nous concentrerons ici sur le groupe des militaires issus des deux tentatives de coup d'État et purgeant leur peine de prison. Qu'ils fussent condamnés à 3, 5 ans ou à la perpétuité, ils furent enlevés secrètement de la prison de Kénitra le 7 août 1973 et enfermés dans un lieu tout aussi secret, Tazmamart. Ils furent aussitôt jetés dans des cellules privées d'air et de lumière, soumises à un régime alimentaire de famine, dont une partie des aliments était sciemment corrompue, privée de toute hygiène, d'eau en suffisance, de chauffage d'hiver, de tout soin médical, de linge, de courrier, de visite, de contact avec l'extérieur. Ils comprirent assez vite que leurs nouvelles conditions n'étaient destinées à prendre fin qu'avec leur mort, dans cette version modernisée de l'oubliette médiévale. Cette mort fut celle que la direction de Casmamart attendait, par épuisement, maladies multiples, infections de plaies ouvertes, escarres jusqu'à l'os, pathologie intestinale, folie, dévoration par les insectes, ingestion de nourriture mise en contact avec des matières fécales. Une mort infligée à distance par les bourreaux et qui emporta 30 détenus sur les 58 malheureux qui subirent ce type particulier d'incarcération dans d'atroces souffrances physiques et psychiques. De cet exemple insupportable de déni du droit et des droits de l'homme, Abraham Serfati, célèbre opposant à Hassan II, qui subit lui aussi tortures et emprisonnements d'une rare cruauté, mais pas à Tazmamart, dont il faut bien comprendre qu'il fut réservé aux militaires ayant été impliqués dans les deux tentatives de coup d'État, plus trois civils qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps de traiter. Serfati dit donc ceci qui donne à réfléchir. D'abord que Tazmamart s'inscrit dans la norme de l'exercice du pouvoir au Maroc, car, je cite, « des caves du glorieux ancêtre de Hassan II Moulay Ismaïl à Tazmamart, il y a continuité des traditions séculaires du pouvoir marzen. » Puis que, je cite, « l'exigence de vérité et de justice pour tous, pour tous les crimes commis depuis ces décennies, doit d'abord s'appliquer à Tazmamart, qui est, pour Serfati, un camp de la mort. » Cette formule interpelle la conscience historique contemporaine, habituée à assimiler camp de la mort à camp nazi, parfois à camp stalinien. N'y aurait-il pas là quelque exagération? La passion politique aurait-elle égaré Serfati? Comment comparer Tazmamart et par exemple Auschwitz, une caserne perdue dans le sud du Maroc, dissimulant la mort lente et douloureuse programmée de moins de 60 prisonniers d'une part, et une usine à tuer à très grande échelle, grâce à des techniques modernes, au cœur de l'Europe d'autre part? Il faut revenir au texte. 5 survivants militaires ont rédigé des récits à vocation testimoniale consacrés à leurs 18 ans d'enfermement. Et l'on y trouve, effectivement, j'en ai effectué le relevé systématique, des allusions au camp d'extermination. Exemple. Peu avant le décès d'un détenu nommé Tigani en 84, Marzouki et Rijali demandent l'autorisation au gardien d'aller assister le mourant dans sa cellule. Le gardien laisse la porte de la cellule ouverte et Marzouki ajoute : nous suffoquions de chaleur et les 3 charognes que nous étions dégagions une odeur pire que celle d'une chambre à gaz. L'ouvrage de Serhan Achat présente de nombreuses occurrences du rapprochement Tazmamart qu'en Asie, et ce dès le récit du transfert de Kenitra à Tazmamart. Car ce transfert est vécu par le prisonnier sur le mode d'une panique particulière. Il a peur d'être jeté en avion dans la mer. Ils atterrissent, ils respirent un air chaud et sec à sa descente de l'avion, il en conclut, il peut rien voir, il a un bandeau sur les yeux. C'était donc dans le désert qu'on devait nous exterminer, pas dans l'océan. Le lendemain matin, les prisonniers sont amenés un à un dans la cour et photographiés. Ils ne savent pas encore que pour beaucoup d'entre eux, c'est la dernière fois qu'ils voient le soleil et que les survivants le retrouveront, je cite, 18 ans plus tard, dans les conditions physiques et morales des victimes de l'Holocauste. La cellule dans laquelle le malheureux est enfermé est traitée dans le texte deux fois de four crématoire. Enfin, en septembre 91, la libération arrive, les détenus n'en sont pas informés, on leur dit qu'ils doivent déposer leurs vêtements pour récupérer des habits neufs. Et la panique s'empare du groupe des survivants. Je cite, « On cherchait certainement à nous leurrer. On voulait se débarrasser de nous d'une manière plus abjecte encore. L'image de l'extermination des Juifs par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale traversa l'esprit de plus d'un. Déshabillés, en fait, pour nous liquider. » Le récit d'Abel El-Wafi comporte une allusion au génocide des Juifs européens par le régime nazi lors d'un échange avec le colonel Fadoul à la Libération. Il le tient pour directement responsable, je cite, d'une politique d'extermination. Passons au texte de Mohamed Raïs, qui lui inclut plusieurs références au camp de Dachau. Et on va garder cette prononciation pour l'instant. En effet, après avoir affirmé être persuadé dès son incarcération, je cite, qu'un génocide lent était méthodiquement préparé, il se souvient avoir clandestinement écrit un courrier dont il restitue les deux phrases finales. Tazmamart est pire que Dachau. C'est un transit pour l'échafaud. Des fours crématoires sont chauds. La référence à Dachau revient à la toute dernière page du texte. Ce bagne de la mort, qui n'avait rien à envier à Dachau, me hante encore aujourd'hui. Par ailleurs, il qualifie la mort du détenu Galou, qui est mort dans des conditions absolument dantesques, de, je cite, « crime contre l'humanité ». Le directeur et ses gardiens étaient conscients de leur génocide abject, pourtant ils continuaient à exécuter strictement les ordres, sans aucun remords. Il convient de noter une variante non négligeable dans le récit d'Aziz Binebin. Ce dernier ne fait aucune allusion dans Tazmamort au camp d'extermination et de concentration nazie, mais par contre évoquant les cruelles morsures du froid, dit « Dans les moments les plus pénibles de l'hiver, je pensais au bagne de Sibérie, à ceux qui, du temps des tsars et de Staline, y avaient été déportés. » J'ai demandé à Aziz Binebin par courriel d'où il tenait cette référence et il m'a répondu ceci. En parlant des bagnes de Sibérie, je faisais allusion aux structures tsaristes que je connaissais à travers les cours d'histoire du lycée, mais surtout d'après mes lectures, car j'étais férue de littérature russe. Je les ai découverts avec Dostoïevski dans Souvenir de la Maison des Morts et Henri Troya dans La Lumière du Juste. Cette réponse mérite que nous réfléchissions. Le témoin affirme bien avoir, lors de son incarcération, mobilisé les ressources de sa mémoire scolaire et les souvenirs de ses lectures de jeunesse. Or, Binebin est le seul écrivain de notre corpus à pouvoir être situé en référence au programme d'un baccalauréat français dans un lycée de la MUCF, et donc à avoir suivi des cours d'histoire qui auraient été susceptibles avant 1970 de donner aux élèves quelques informations sur le génocide des Juifs européens. Et ces informations étaient déjà dans les livres d'histoire de l'époque pour l'enseignement français, pratiquement inexistantes, j'ai vérifié, mais je ne peux pas entrer dans les détails. En outre, il convient de rappeler qu'en 1968, en France, un élève sur 10 accédait au baccalauréat. Il était certainement encore plus rare au Maroc, tout type d'établissement confondu. Et l'état de nos recherches à ce jour montre qu'il n'y avait pas de cours d'histoire internationale dans les programmes du baccalauréat marocain au cours des années 1960, qui sont, d'après les recherches que j'ai faites pour les dates de naissance des incarcérés, celles dans lesquelles, s'ils avaient été jusqu'à la classe terminale, ils auraient obtenu leur baccalauréat. Rien ne prouve d'ailleurs que ces hommes aient obtenu le baccalauréat dans le texte et donc constitué une sorte de boîte à outils, une culture générale historique permettant l'accès à un certain nombre d'informations et de références. Car ces prisonniers présentent un tout autre profil que celui de Bin Bin. Soit ils ne donnent aucune indication sur la scolarité, soit ce paramètre prend une valeur exceptionnelle dans le témoignage, et c'est le cas de Marzouki, mais qui a commencé de longues études et qui a rédigé un mémoire sur, je cite, la Convention internationale contre la torture et le droit marocain, bien après sa libération en 1991. D'où viendrait alors l'idée d'une odeur dégagée par les détenus qui soit pire que celle d'une chambre à gaz? Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'odeur du gaz, car la chambre à gaz n'était pas rouverte tant que le gaz y stationnait, mais bien celle de l'odeur de corps humains gisants, des corps non lavés, souillés d'urine, de sang, de sueur, de matière fécale. J'ai consulté un des témoignages de survivants du Sonderkommando d'Auschwitz qui parle parfaitement bien de la manière dont ces travailleurs de la mort se comportaient quand ils entraient dans la chambre à gaz et qui dit, en effet, ils faisaient attention à ce qu'il y ait du gaz ou pas, mais ce gaz n'était ni inodore ni insipide, il avait une odeur d'alcool et une saveur doucereuse. Quant au reste, tout le camp respirait l'odeur de la chair brûlée et de la décomposition des cadavres. Pour en revenir à ce qui nous préoccupe, la comparaison construite par Marzouki n'est donc pas issue d'une culture scolaire, ni de lecture personnelle qui aurait été effectuée avant son incarcération, qui semble bien avoir été pensée a posteriori lors de la création du livre. On peut alors penser ici au rôle joué par Ignace Dahl, le rédacteur de Tazma Martz et Loutis, dans les énoncés que nous avons relevés plus haut. Nous faisons l'hypothèse qu'un rôle identique a été assuré par Abdelhak Serhan, le rédacteur du livre de Salah Achad, dans le même but, proposer au lecteur un rapprochement entre horreur nazie et horreur hassanienne, puisque la fin du XXe siècle, pour le public, s'accompagne d'une bien meilleure connaissance des horreurs des camps d'extermination et de concentration, tandis que la connaissance de la réalité de la répression royale n'est pas encore tout à fait établie et qu'Hassan II, en 1993, a encore beau jeu de se présenter en monarque sérieux et responsable dans le livre que lui a consacré Éric Laurent, ou de faire le charmant quasiment devant Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7 du 14 mai 1993. Par ailleurs, pour revenir au témoignage de Achad, qui disait que les prisonniers avaient pensé être livrés à des chambres à gaz et sommés de se déshabiller auparavant. Alors, il n'y a jamais eu de douche à Tazma Martz. Les prisonniers sont restés 18 ans sans pouvoir se laver. Et Marzouki raconte, lui, que si ces malheureux ont eu très très peur, ce n'était pas de se retrouver à la douche, mais de quitter, de devoir se séparer de toutes sortes de petits trésors nécessaires à leur survie, à leur maintien en vie, des bouts de ficelle, des brins de laine, des aiguilles artisanales, des doublures, des bandages de fortune pour protéger leur ventre malade. Revenons à présent aux énoncés produits par l'aspirant Raïs. Le camp nommé est celui de Dachau, qui permet un jeu d'écho créant une rime intérieure dans la phrase. Dachau, échafaud, chaud, à condition bien entendu qu'on croit comme lui que ça se prononce Dachau, parce que les germanophones savent que ça se prononce Dachau, et qu'on ne peut pas faire le jeu de rime intérieure que je viens de citer. Par ailleurs, Dachau, pour continuer à le prononcer comme Raïs, n'était pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration et de travail forcé. Il a bien eu une chambre à gaz, je suis allée vérifier. Mais selon Joseph Rovan, un des témoins ayant survécu à Dachau, elle n'a jamais fonctionné. Et les condamnés étaient dirigés sur des structures qu'on appellerait plus performantes. L'expression « transit pour l'échafaud » est à entendre ici comme une métaphore de la promesse d'exécution capitale. Peut-être aussi un écho au film « Ascenseur pour l'échafaud ». Des fours crématoires sans chaud, autre expression, présentent une condensation inattendue entre deux solutions techniques pour obtenir la disparition des cadavres. Le four crématoire de haute technicité et un chaud, matériau corrosif connu depuis l'Antiquité et qui servait à faire disparaître tous les morts de Tazmamart enterrés dans la cour sans cérémonie les uns après les autres. La courte étude à laquelle nous venons de nous livrer sur les énoncés étonnants relevés dans le corpus aboutit bien en effet à ces remarques. Les auteurs et leurs rédacteurs aidant, il n'y a que deux livres sur les cinq. Je n'ai pas pu m'attarder en détail là-dessus, qui n'ont été rédigés que par l'auteur. On mobilisait une série de références éprouvées au moment de la publication des textes, porteurs d'une charge émotionnelle intense, celle du champ lexical d'un maître mot, extermination. Comme ce mot est désormais confondu avec celui de génocide, lequel fait immédiatement écho à génocide des Juifs européens par les nazis, et que cette expression appelle aussitôt à son tour le terme « camp ». La chaîne associative fonctionne. Tazmamart, qui n'est pas un camp de travaux forcés, les détenus n'y ont été astreints à aucun travail, ils ne devaient rien produire, ils devaient juste mourir. Tazmamart, utilisé comme mouroir clandestin, ce serait plutôt Treblinka, toute proportion de population victime gardée. Une autre différence majeure concerne la durée de l'internement, qui ne connaît à Tazmamart d'autre échéance que celle de la résistance du prisonnier au régime de mort lente. Le prisonnier de Tazmamart n'est pas torturé, pas systématiquement battu, et s'il tient le coup, ce qui est donc arrivé à quelques-uns, il est libéré aussi soudainement qu'il avait été plongé dans l'enfer d'un caveau et n'a pas trop intérêt à porter plainte, à demander justice, à faire connaître ce qui lui est arrivé. Le Marzen se charge de le lui rappeler. Il lui est en effet recommandé de se montrer reconnaissant envers la mansuétude de la grâce royale. Une autre différence fondamentale, c'est bon pour le temps ? Entre les populations exterminées par le régime nazi et le groupe des 58 détenus de Tazmamart, c'est que la disparition programmée de ce groupe n'obéit à aucune idéologie raciale. Les prisonniers sont tous de nationalité marocaine, certains arabes, d'autres berbères, tous de religion musulmane. Il n'y a pas de persécution religieuse. La disparition programmée tient en outre à ce qui a été fait et non à ce qu'on est, car les militaires ont bien participé aux deux tentatives de coup d'État, même si certains ils participèrent à leur corps défendant, et certains se sont vraiment, tout simplement, trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'en demeure pas moins que des rapprochements troublants peuvent être pertinents. En ce qui concerne le mécanisme mis en œuvre pour dissimuler l'horreur de la condition carcérale affligée aux victimes, relisons ce qu'écrit Bruno Bettelheim dans Survivre, lorsqu'il évoque les pratiques de la Gestapo. Je cite « Celle-ci ne rendait publiquement aucun compte de ses activités, ne justifiait pas ses arrestations, ne précisait pas la durée de l'internement. Elle ne disait même pas à l'entourage du prisonnier s'il était encore en vie, tout cela pour augmenter la terreur par le mystère et l'incertitude. C'est bien ce qui s'est passé au Maroc. Deuxième critère, l'arbitraire absolu. Les prisonniers qui n'avaient écopé que de 3 ans et qui espéraient être libérés comprennent rapidement qu'ils ne seront jamais remis en liberté et qu'ils ne sortiront de là que les pieds devant. Tous les témoignages font état de la sidération alors éprouvée, du désespoir et de la folie qui s'est emparée de plusieurs. L'arbitraire est donc bien une constante d'un type de camp à l'autre. Le but de son exercice est bien l'extermination du prisonnier. Ce terme, employé par les auteurs dans les énoncés que nous avons relevés, nous paraît donc justifié. Un dernier paramètre autorisant la confusion camp nazi Tazmamart en ce qui relève des intentions mêmes de l'écriture du texte est enfin à prendre en compte la culpabilité du survivant. Ce sentiment tarde, constant chez les rescapés des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, traverse les textes de notre corpus, donnant une nouvelle et tragique illustration aux propos de Bettelheim, avec lesquels nous clorons cette communication. Une voix, celle de la raison, essaye de répondre à la question « Pourquoi ai-je été épargné de cette façon ?» C'est uniquement une question de chance, de pur hasard. Il est impossible de répondre autrement. Tandis que la voix de la conscience réplique « C'est vrai, mais si tu as eu la chance de survivre, c'est parce qu'un autre prisonnier est mort à ta place. » Je m'insurge tout particulièrement, dit Bettelheim, contre l'idée que quiconque, y compris le survivant, est dans l'obligation de prouver qu'il était digne d'être sauvé, pour la simple raison que cela implique que ceux qui sont morts ne l'étaient pas. Mais alors que le fait d'être survivant n'entraîne aucune obligation particulière, il constitue néanmoins un fardeau exceptionnel et particulièrement lourd. Ainsi, la littérature carcérale des Tazmamarti s'arrache-t-elle, pour nous, à ses conditions de production historique locale pour prendre sa place dans l'immense corpus des tentatives humaines pour faire entendre la plainte de l'homme torturé du XXe siècle.